Microfilm. Film, bonsoir, comme prévu, comme annoncé, Jean Rouge suite, fin hélas, mais on pourrait faire évidemment 50 émissions qu'on n'aurait pas encore le début des vraies questions, en tout cas les vraies réponses arrivent elles très très vite. On a parlé la semaine dernière du présent, c'est-à-dire du film que Jean vient de finir. On a parlé un petit peu d'une chose assez grave qui était comme ça le rapport à la mort, à la commémoration. Bon, et puis on s'était dit que pour la seconde émission, on essaierait de revenir un peu en arrière. Quand on feuillette, là, j'ai sous les yeux un livre, un des rares qui a été consacré à un numéro spécial de la revue Cinémaction, qui a déjà une bonne dizaine d'années. Mais il y a quand même beaucoup de choses en vrac. Alors on voit qu'au fil de ta carrière, alors là je parle seulement du cinéma, il y a eu comme ça des moments, des grands foyers de polémiques, d'insurrection, de médiatisation. Bon, il y a eu le moment cinéma-vérité, même si le mot aujourd'hui n'est plus utilisé, et que comme tous les mots qui ont du succès, tout le monde le renie, mais à vrai dire, quand un mot a du succès, il faut quand même toujours faire attention à ce qu'il veut dire. Ensuite, il y a l'autre débat qui est sur mai 68, qui était quand même le seul moment dans l'histoire récente qui ressemblait de près ou de loin à ce que tu appelles de tes voeux, car tu as toujours professé un libertarisme catalan absolument déchaîné. Il y a un autre débat qui est beaucoup plus sourd, et je ne sais pas du tout celui-là où est-ce qu'il en est, on va en parler, c'était rapport avec les Africains, et aussi avec les cinéastes africains, vu que le cinéma africain existe, qu'il y a des gens qui font des films. Et puis, est-ce que c'est la même histoire qui se continue avec comme ça des avatars différents, ou est-ce que c'est des choses qui sont un peu de loin ou un peu datées? Par exemple, dans ce numéro-là de Cinémaction, on parle beaucoup de tes rapports avec, disons, Sam Ben Ousmane, pour prendre le cinéaste africain, le premier à peu près historiquement, enfin le premier connu, une sorte de vieux baroudeur, qui je crois que vous avez des rapports assez compliqués, peut-être de l'ordre justement de l'Alliance cathartique. Et ce numéro-là se fait l'écho que, quoi que tu fasses en Afrique, et ce que tu as fait en Afrique était non seulement assez unique, puisque tu es l'un des rares cinéastes blancs qui a consacré l'essentiel de son travail à l'Afrique, mais en plus tu le faisais d'une certaine façon qui n'était pas du tout celle qu'on pouvait attendre d'un cinéaste intéressé par l'Afrique. Tu as fait avec l'Afrique, tu es devenu un peu africain toi aussi, à ta façon. Et on a le sentiment, et moi je l'ai toujours eu, c'est que quoi que tu dises et quoi que tu fasses, que tu tournes en Super 8, en Super 2, en 70 mm, en vidéo, ton projet global, il pouvait être copier, imiter ou donner des idées aux autres, mais en tant que tel, ne pouvait jamais être accepté. C'est-à-dire que jamais les Africains, quand ils ont commencé à faire du cinéma, semblent avoir dit « Rouche a raison, il faut tourner en Super 8, il faut faire des films très, très simples, qui ne coûtent pas cher du tout ». Ils se sentent extrêmement vexés qu'on les cantonne, puisqu'ils sont arrivés quand même très tard dans le cinéma, à un cinéma qui peut-être serait moralement ou éthiquement ou poétiquement extraordinaire, mais qui évidemment n'irait jamais dans les festivals et serait quasiment pas vu. Et ça, c'est quand même tout le temps. On voit bien qu'au fil des années, même quand l'idée de tiers-mondisme disparaît un petit peu, que les gens se calment, tu ne peux pas être accepté, ou ton discours ne peut pas être accepté. Alors, est-ce que tu en as souffert? Est-ce que tu l'as considéré comme inévitable? Et aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça?
Par exemple, avec Sam Ben, nous étions tous les deux dans la même armée. On allait libérer la France. Donc, on avait ces relations de frères d'armes. Et moi, j'étais très content, par exemple, de découvrir et d'apprendre que le Bram Saret avait été influencé, moins, je crois comment on peut dire, inspiré par Moins Noir. Enfin, c'est un élément qui est quand même important. C'était avant les indépendances, à des moments difficiles, et ça me semblait très intéressant. Bon, ceci dit, Moins Noir est le dernier film politique que j'ai fait sur l'Afrique, car après, c'est aux Africains, je pense, de faire leurs propres films. Et je me suis cantonné dans des récits, des histoires, Et dans le film ethnographique, c'est-à-dire essayer d'enregistrer pour les générations à venir les rituels, des techniques, des manières de penser, de faire, d'être, qui vont disparaître ou qui vont en tout cas se transformer. Donc ma position était relativement simple. D'une part, moi j'ai toujours été proscrit un peu, c'est une habitude. Une des forces peut-être qui me permettait de revenir en Afrique noire, c'est d'avoir été expulsé comme ingénieur du territoire du Niger par le gouverneur du Niger. Donc, pour les Nigériens, je suis une des premières victimes du colonialisme. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant, qui était pas nul du tout. Et le deuxième élément, c'est que ce qui me semblait important dans le cinéma, c'était effectivement, d'une part, d'essayer de raconter des histoires africaines que je puisse raconter, non pas simplement pour les Africains, mais pour le reste du monde. Et ça me semblait important de donner, autrement dit, aux Noirs la parole. Et deuxièmement, d'essayer de promouvoir ce cinéma. La plus grande joie de ma vie a été le jour où Oumar Ouganda, qui avait été l'acteur de Moi, un Noir, est devenu réalisateur. Il était passé de l'autre côté de la caméra. Et moi, c'était pour moi un rêve. En plus, il ne faisait pas du tout les films comme ceux que je faisais. Il avait été formé par Serge Moati et une équipe qui était à Niamey, et dans lequel on exigeait le découpage, on exigeait une préparation. Moi, j'ai jamais écrit de scénario. Donc, c'était très bien. Et c'est comme ça, je pense, que les choses doivent se faire. Alors, aujourd'hui, quand je pense à cela, je crois que c'est un très grand stimulant. C'est un très grand stimulant de faire du cinéma en Afrique sans jamais prétendre être noir. On est l'observateur étranger, mais en même temps qui a vu beaucoup de choses. Avec mes amis de toujours, avec Damouré, avec Lam, avec Illo, avec Talou, nous avons fait des choses qu'on ne fera plus jamais. Par exemple, il n'y aura plus jamais de chasse au lion à l'arc au Niger, parce qu'il n'y a plus de chasseur, il n'y a plus de lion. Donc, on ne fera plus jamais de chasse à l'hippopotame au harpon, si tu veux. Et ceci crée, alors, par l'intermédiaire du film, des relations qui sont des relations peut-être parmi les plus honnêtes que puisse avoir un homme blanc avec des Africains, puisque l'on partage une aventure qui est risquée. Après tout, personne n'était armé dans nos histoires de chasse. Et on était forcés tous de croire en la puissance des pierres magiques qui nous rendaient invisibles aux lions. On mourait de peur, mais enfin on faisait comme si. Et deuxièmement, de s'apercevoir que des choses comme ça peuvent marcher, que ça peut faire des films. Ces films ne coûtaient pas très cher. Et alors finalement, d'avoir la joie de partager les droits d'auteur avec des Africains qui continuent à vivre sur des œuvres que nous avons faites et qui tous les ans peuvent ouvrir une maison de soins, une clinique, peuvent acheter une autre voiture. Et quand on manquait de quelque chose, on savait que par le cinéma, on pouvait résoudre un problème qui était complètement insoluble. Par exemple, à un moment donné, il y a de ça une dizaine d'années, on avait tous des voitures, elles étaient tous dans un état épouvantable. Or, je connaissais le directeur d'une maison de commerce qui représentait Volkswagen. Et je lui propose de faire un film de publicité sur la Volkswagen. Et très vite, il me dit oui, ce serait bien, mais comment il faut le faire en 35 mm. Je dis non, on va le faire en 16 et on l'agrandira en 35. Et je trouve comme idée l'idée de faire un film, une série de 20 films d'une minute qui passerait toutes les minutes dans les salles de cinéma de l'époque. Un peu comme les vampires de Feuillade, tu vois, les épisodes. Et c'est comme ça qu'on a réalisé un film. Le titre du film était en français, en anglais, j'ai trouvé ça formidable. En anglais, le titre était VW, You Rascal You. Et en français, VV Voyou. Donc, on était sur un truc qui était bien. Donc, des musiciens improvisaient une chanson et on a improvisé un film et j'ai appris beaucoup de choses. Car faire des films d'une minute, c'est pas facile. D'autre part, il fallait un certain nombre de trucages et on apprenait le trucage en le faisant et en voyant les résultats. Et puis surtout, nous avons appris une fois de plus le dépit. Je l'avais eu, ce dépit. Le premier film que j'ai tourné, qui avait eu le prix de Luc, qui était Moins Noir, a été interdit immédiatement en Côte d'Ivoire. Et j'étais là avec tous les acteurs de ce film, et pour eux, c'était la fin des rêves. C'était quelque chose d'intolérable. Bon, ça s'est arrangé après. Mais je veux dire, il y a eu le dépit. Lorsqu'on a fini le film, les gens l'aimaient bien, et ils nous ont envoyés en Allemagne pour le proposer à Volkswagen. Et quand on est arrivé à l'usine de Volkswagen, ils venaient de fermer l'atelier de construction de la Coccinelle, donc il n'y avait plus cette voiture. Et le résultat, c'est que nous n'avons eu que ce que j'avais demandé comme paiement, c'est-à-dire on avait demandé une voiture chacun. Ça faisait 4 Volkswagen. Et ces 4 Volkswagen nous ont permis de venir jusqu'ici. Moi, j'ai échangé l'une contre une Peugeot, une 504. L'Amouré a gardé la sienne. L'âme l'a échangé contre une Land Rover diesel. Et Talou est rentré dans son village. Et pendant un an, il a payé à boire gratuitement la bière au campement à tous ses copains. Bon, ça, on sait le faire avec un film, tu vois. Et cette espèce de complicité dans la marginalité, même dans un système très très établi, moi je trouve que c'est une bonne chose. Alors bon, que les gens en soient un peu jaloux, d'ailleurs c'est pas tout à fait le cas, parce que dans la plupart de ces films, moi je faisais toujours appel aux copains africains, et qui faisaient le nécessaire, enfin qui étaient les complices de l'aventure et qui pouvaient gagner un peu d'argent. Alors dans le problème de l'assistance technique, j'estime que mes cadeaux n'étaient pas aussi empoisonnés que les grands barrages, que les ponts papiers qui ne marchent pas, que les écoles de brousse, que les ambulances qui tombent en panne, etc.
Mmh. C'est bizarre, parce que quand je t'entends parler, je me dis Rouch a été très, très critiqué par des gens, soit africains, soit blancs, qui étaient en faveur d'un cinéma utile, socialement utile ou politiquement utile, donc un cinéma militant. Et tu as toujours eu horreur de ça, tu le dis avec beaucoup de force dans un entretien assez drôle de l'époque. Tu avais évidemment raison, sans grand mérite. Mais en même temps, quand je t'entends parler, je me dis, mais c'est quand même une définition utilitaire du cinéma. D'une part, il y a ce qu'on avait dit la semaine dernière, ça veut dire qu'il y a des opérations à faire. Qui sont politico-magiques, qui sont des rituels, qui sont des choses pour prendre date. D'autre part, il y a aussi les retombées, alors très concrètes, très modestes, qui fait que le cinéma permet de faire des coups, mais pas au sens voyou du terme, au sens ça permet de faire circuler les choses, les objets, les affects, les amitiés. Et c'est quand même une conception finalement assez utilitaire. Et il y a quelque chose sur lequel, je pense, on ne t'a jamais interrogé, ou tu as toujours certainement su très très vite prendre la tangente et parler d'autres choses. C'est, tu es par ailleurs un artiste, par ailleurs quelqu'un qui, à un moment, a d'une part influencé beaucoup de gens importants, donc tu es dans l'histoire de la pensée du cinéma, et le cinéma est quand même l'élément dans lequel tu respires, enfin l'élément, et de ça tu ne parles jamais, sans qu'on sache si c'est orgueil caché, incapacité d'en parler, ou parce que tu te sens voué finalement à ces sortes de bricolages très sérieux, qui ont des effets dans le réel, mais qui n'en ont pas forcément dans le symbolique. Je veux dire, symbolique, l'œuvre d'art, et puis quelqu'un qui dit, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis derrière.
Bon, écoute, la réponse est très simple. Moi, je suis né en 1917. Quand j'avais 7 ans, mon père m'a emmené à Brest dans un cinéma de la rue Thiam où j'ai vu Nanouk. Peut-être 5 ans, je ne me souviens pas. C'était le premier film que je voyais. Et c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversé. C'était la rentrée dans un autre élément, quelque chose de très très étonnant. Et puis la semaine suivante ou le mois suivant, ma mère m'emmène dans le même cinéma pour voir Robin des Bois. Et là, je me mets à pleurer parce que je voyais des types qui mouraient et ma mère essaye de m'expliquer que c'était des acteurs, c'était des mannequins, que c'était pas vrai, que c'était truqué. Alors j'ai dit Nanouk. Alors elle me dit, on va demander à papa. Et mon père me dit, Nanouk, c'est film, on ne disait pas documentaire à cette époque, je ne sais pas ce qu'on disait, mais il m'explique qu'il y avait donc les deux aspects, et que la limite entre les deux était assez frêle, et j'étais fasciné par cette histoire qui faisait qu'à partir de ce moment-là, par exemple, mon livre de leçons de choses devenait aussi beau que les aventures de Pinocchio, c'était du même ordre, la houille sous la terre, c'était pareil. Mmh. Donc c'est une sorte de conception, effectivement, pour employer le terme artistique, du monde qui nous entourait. Il se trouve que dans ma famille, tout le monde faisait de la peinture, moi je faisais du dessin. Donc, par exemple, j'étais tout jeune, j'étais amené par un de mes cousins à Montparnasse, et on allait boire un verre au Dôme. J'avais 17 ans peut-être, et arrive un type un peu étrange, qui avait un costume vert et une moustache teintant bleu, et il me présente Salvador Dali. Et c'était des gens qu'on voyait comme ça. Et j'avais l'impression d'appartenir à cette famille. C'est des gens, ils étaient comme nous, c'était la même chose. Il n'y avait pas cette différence qui existait entre les métiers nobles et les métiers qui ne l'étaient pas. Il y avait ces gens qui créaient des trucs, et moi, les petits bouts de peinture que je faisais me semblaient dans la même lignée. Alors, évidemment, j'ai eu la chance de connaître cette époque formidable de ce qu'a été événement extraordinaire qui était le surréalisme. J'étais un des premiers membres de la Cinémathèque française en 37, chez Langlois, qui était tout jeune et tout maigre, et où nous montrait des films fantastiques. Et là, c'était encore la même impression. Il y avait dans le monde des gens qui aimaient ces choses-là. Par exemple, l'exposition des arts déco, ce qui doit être de 25, quelque chose comme ça, pour moi, c'était l'architecture de Malé Stevens que je voyais avenue du Parc Montsouris, qui s'appelle avenue Coty maintenant, et où il y avait la maison de Malé Stevens, que j'aimais beaucoup. Donc, tout ça, on était là-dedans, et moi je me disais, mais au fond, quand je serai grand, je serai comme ces gens-là. Il n'y avait pas de grand problème. Et je dois dire que j'étais un petit garçon parfaitement heureux, puisque, bon, l'école, pour moi, c'était un peu comme le cinéma, quoi, avec de bons et de mauvais acteurs, de bons et de mauvais films. Enfin, on apprenait des choses qui étaient intéressantes.
Attends, je te coupe, là. Il me vient tout d'un coup une idée. Est-ce qu'on pourrait pas dire que les grands documentaristes, même avec les guillemets mis à ce mot, oui, sont pas des gens fondamentalement heureux? Flaherty, Evans, toi.
Oh, Flaherty, je crois, était très heureux, Evans aussi. Oui. Flaherty est un grand conteur.
Est-ce que la fiction, parce que c'est quoi la fiction? Tu viens de donner toi-même la réponse. Oui. On ne peut pas supporter que quelqu'un fasse semblant de mourir à l'écran.
Bien sûr.
Bon. Alors, est-ce que ça vient pas d'une expérience plus rude des choses?
Plus tragique, oui, c'est très possible. C'est très possible, et c'est là-dedans où peut-être mes camarades africains me reprochaient de ne pas traiter des sujets sérieux.
Oui.
Et que c'était sérieux. C'est vrai, ils avaient raison. Mais comme on dit dans le langage de Côte d'Ivoire, on peut faire des films drôles au sérieux. C'est une très belle expression, faire au sérieux. Et moi, j'estime que je riais au sérieux. On était sérieusement drôles. Et donc, il n'y avait pas de... Si tu veux, il n'y avait pas de problème. Et puis tout ça, s'est cassé net en 39. Bon, en 37, ça avait été l'éblouissement. Moi, je faisais des mathématiques, j'étais pas trop nul. Mon rêve aurait été de rentrer à l'école normale supérieure, maths, mais j'étais pas assez fort pour ça. Et je suis rentré à l'école des Ponts et Chaussées. Bon, c'était 2 ans de bonheur, c'était 37, 38, quoi. C'était le grand moment, l'explosion de tout ce qui allait se passer. Puis paf, la guerre arrive, et je commence mon métier d'ingénieur en faisant sauter les ponts de la Marne jusqu'à Limoges. Et il faisait un printemps merveilleux comme je n'ai jamais vu. Peut-être c'est une illusion qui permettait aux avions allemands de bien voir leur cible, il n'y avait aucun problème. Et nous allions à bicyclette, traverser la France à bicyclette, pour faire sauter des ponts, ce qui était une œuvre assez bizarre, c'est en même temps extraordinaire, un pont qui saute, le pont de Briard, par exemple, un pont canal, qui dégringole, tout d'un coup les canaux se vident, enfin c'est... On déclenche des catastrophes. Bon. Et ça, c'était pour moi, tout était remis en question. C'est-à-dire, on m'avait appris que l'armée française était invincible, c'était pas vrai. On m'avait appris que l'honneur, ça existait, puis paf, pétain, c'était pas vrai. On m'avait appris qu'il y avait des règles de courage, je m'étais aperçu pendant cette débâcle que des officiers français fouiller un peu dans les maisons pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à ramasser, ce sera autant que les Boches n'auront pas, tu vois. Donc tout s'est remis en question. Et ça s'est terminé sous l'occupation à Paris. Et le directeur de l'école des Ponts et Chaussées, René Saint-Père, nous a dit, avait notre adresse, et nous a dit de rentrer même dans Paris occupé en disant, il vous reste une année à faire, si vous ne la faites pas maintenant, vous ne la ferez jamais, la guerre va être longue. Et on est rentré à Paris, et là, cette année-là était une année essentielle, parce que les Allemands étaient là, c'était intolérable, et les seules portes ouvertes, c'était le Musée de l'Homme, où on parlait d'autres lieux, on parlait éventuellement de Gondar et de la guerre en Érythrée, parce que c'est là que ça se passait également, mais on parlait aussi d'autres choses. Et la Cinémathèque française, où Langlois continuait d'ailleurs au cinéma du Musée de l'Homme, à nous montrer des films. Moi, je raconte ça tout le temps maintenant. Très rapidement, à Pâques, nous étions allés avec mes copains en Bretagne pour manger. Puis on était arrêtés par des Allemands qui pensaient qu'on voulait gagner l'Angleterre. On était en âge d'être mobilisés. Et finalement, on était libérés. On avait été arrêtés à Douarnenez. On a été libérés. Il fallait partir. Mais on ne pouvait pas quitter la France sans une autorisation de la Wehrmacht. Nous étions suspects. Donc on est partis là où on pouvait aller comme ingénieur des travaux publics, des colonies. Et c'est l'Afrique. Donc, mon arrivée africaine n'était pas prévue du tout au départ. Elle est arrivée par ce très singulier hasard. Et ça s'est passé à ce moment-là. Le deuxième élément, et qui était du même ordre, peu de temps après la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'Union soviétique, ce fou de Langlois passe à la Cinémathèque du Musée de l'Homme, un film que Marie Epstein avait emmené dans une voiture d'enfant à grand risque, qui était Au loin une voile de Légotchine. C'est un film interdit. On voit ce film dans lequel il n'y avait aucun sous-titre, rien du tout, aucune explication, mais où tout d'un coup nous étions solidaires de cette première révolte des marins de la mer Noire et des enfants qui étaient là. Et à la fin du film, la lumière est arrivée, les bobines ont disparu mystérieusement, et avec mes copains, on s'est dit, tiens, voilà un écran de la liberté. Tout d'un coup, un film nous avait dit, bah, la liberté, c'est la chose essentielle, nous l'avons perdue, il faut repartir. Alors, par exemple, pour répondre à une question que tu pourrais me poser, deux ans plus tard, je me retrouve à Dakar, expulsé du Niger comme gaulliste, et que je repars dans l'armée française, il n'y avait aucun doute. J'estimais que c'est pas mon devoir, c'est la seule chose à faire. On savait que c'était difficile, ce serait vache, etc. Et puis, il n'y avait pas de problème. On est arrivé en Afrique du Nord, où il y avait des séries de jeunes Français qui traversaient l'Espagne à grand risque pour rejoindre cette armée fantôme. Et j'ai eu la chance, parmi les ponts qu'on a refaits, on faisait la route à l'envers, de faire un pont sur le Rhin et de terminer la guerre à Berlin. Et à Berlin, d'avoir l'idée de faire un premier film que j'ai réalisé 60 ans plus tard, ou 40 ans plus tard.
Ah oui, mais je l'ai vu.
Oui, Berlin, oui. Août 1945. Et c'était si tu veux, ça rentrait dans la ligne de jeu. Notre idée était partie vis-à-vis de Langlois. Langlois nous a montré Chemin à la liberté. Je voulais faire un film pour dire, voilà, ben ça y est, on y est arrivé. Mais regardez l'horreur. Regardez ce qu'est Berlin. Et ce film-là, tu vois, je l'ai donné à Ulrich Gregor. Car c'est un film qui était difficile à montrer à Berlin, en lui disant, voilà un exemple de parenté à plaisanterie. Je te donne ce film, mais maintenant nous avons le droit de nous insulter, mais de nous aider. Et je crois, si tu veux, que ce sont des travaux comme ça, et qui se font, pas du tout naturellement, pas du tout moralement, mais pour employer l'expression de Breton, c'est le hasard objectif, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à faire.
Donc, au fond, tu es quelqu'un qui, au début de ta carrière, commence par faire sauter des ponts,
oui.
Et après qui passe ta vie à en faire d'autres.
Oui, cinéma, et à faire sauter quelques ponts au passage.
Non, de faire sauter quelques passerelles vermoulues, de faire sauter des tout petits ponts.
Oui, mais par exemple...
Pour pas perdre la main.
Mais oui, mais par exemple, j'ai tourné un film qui était la suite de la chasse au lion en Afrique, qui s'appelle Un lion nommé l'Américain, et tout d'un coup un gars met la radio et j'apprends que la Sorbonne est occupée par les gendarmes, 168, par les policiers. Immédiatement, je dis, on plie le campement et on s'en va. Pour moi, c'est indispensable. Et je rentre à Paris par un des derniers avions. J'ouvre ma fenêtre, j'étais sur la rue de Grenelle, et je vois passer un défilé avec des drapeaux noirs que je n'avais pas vu depuis très longtemps. J'ai suivi. Et c'était pour moi complètement naturel. Je suis rentré dans ce truc comme peut-être la plus belle aventure de ma vie, comme la revanche qui me montrait qu'il n'y avait pas de honte à être français, tu vois, qu'il y avait des gens comme ça, comme cela, qui étaient là. Et c'était complètement naturel.
Alors cela dit, tu dis dans un entretien que c'est un de tes grands remords de ne pas avoir filmé la fête en 68, c'est-à-dire mai-juin. Mais pourquoi tu ne l'as pas filmé alors?
Bah, parce qu'on était dedans. J'en ai parlé avec Godard souvent, parce qu'on avait
vu avant l'affaire Godard. Il n'est pas très fait sur la fête, de toute façon.
Mais parce qu'on était dedans et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu un bouquin écrit là-dessus, qu'il n'y a pas eu un film fait là-dessus, que
non.
Les archives, c'est rien, il n'y a rien. C'est vraiment un mythe. Alors, peut-être faut-il le tourner dans 100 ans, dans 150 ans, je ne sais pas. Mais je me souviens d'un truc formidable. J'étais par hasard, on avait occupé le CNRS. Je vais à une réunion des cinéastes à l'école de Vaugirard, et là, je propose d'aller occuper le CNC, ce qui était complètement con. Le CNC, c'est des dossiers, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on va aller occuper le CNC? Enfin, c'est un geste symbolique. Alors, grosse discussion, c'est pas la peine, le CNC n'existe plus, etc. Moi, je dis, à ce moment-là, si vous voulez, demain, rendez-vous à 10h à l'entrée de la rue de Lubeck. Je vais là, il y avait un seul type, c'était Carnet. Alors tous les deux, avec Marcel Carnet, on part. S'il y avait peut-être un troisième réalisateur, j'ai oublié son nom, mais on était trois. On part et on arrive devant la rue de Lubeck et il y avait un quart de police. Alors là, on prend un air de bon bourgeois baladeur, on regarde, on parle cinéma, on tourne au coin de la rue, mais on dit, c'est raté, on ne peut pas. C'est pas la peine de tenter ça. Et quand je racontais ça l'autre jour à Marcel Carnet, quand on a fait une rétrospective à la Cinémathèque, pour lui c'était le grand bonheur d'avoir été là avec la même impulsion, tu vois. C'était normal. Et ces choses-là sont des choses normales et qui ne se discutent pas et qui n'ont pas besoin d'un militantisme préparé, quoi. C'est un truc... ce sont des mouvements du cœur, beaucoup plus que des mouvements de la tête.
Là, le livre qui t'est consacré, enfin, ce numéro spécial, s'appelle Jean Rouch, Griot gaulois. Alors, je pense qu'ils l'ont fait parce que ça fait une belle allitération.
Oui.
Mais gaulois, ça te plaît?
Moi, tu sais, mes ancêtres sont catalans et...
Catalans français ou espagnols?
Les deux, juste à la frontière, entre Puigcerdà, Bourmala, mais ces coins-là. Et mes cousins étaient des... Je voyais ça quand j'étais jeune, quand on regardait dans les ports les listes des gens recherchés. Il y avait des rouges en pagaille, c'était les insoumis, c'est les types qui avaient brûlé des couvents après avoir violé les nonnes, etc., etc. Donc c'est une vieille tradition. Et le grand moment, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que c'était pour moi évident, c'était juste quand je préparais ces concours, l'IX, les ponts, l'école normale, c'était l'époque de la guerre d'Espagne, que ça représentait. Mais ça, je pense qu'on y arrivera, qu'on retrouvera les éléments. Il y a actuellement, les premiers films sortent sur la prodigieuse aventure inconnue de la Fédération anarchiste ibérique, de la CNT, de tout le libertaire actif qui s'est fait à ce moment-là et qui, je crois, fait partie de mon être très, très intérieur. Mais naturellement. C'est pour ça, sans doute, quand je parle de militantisme sans tête, c'est bien cela.
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée
du cœur?
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée? Parce que je pensais à Evans, bon, qui lui a été un voyageur et un griot, mais malheureusement stalinien, donc ça l'a mis dans des drôles d'aventures. Toi, tu es un griot libertaire. En même temps, un bon libertaire sait que aucun parti, aucun programme articulé.
Oui.
Tu ne crois pas beaucoup au lendemain qui chante, mais tu penses que à chaque moment dans le monde, il y a forcément un endroit où ça respire un peu mieux et qu'il faut y être, en gros.
C'est ça, il faut l'enregistrer.
Ouais.
Il faut fabriquer des...
Donc, il faut faire une sorte de conservatoire portatif de quelque chose qui ne peut pas...
Il faut prendre des dates.
Voilà,
ça s'est passé là, et le serment du jeu de paume, c'était à tel moment, telle date, boum, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Pan, point à la ligne. Bon, c'est des témoignages qui, je pense, seront essentiels si l'on veut... participer à la construction d'un monde futur qui sera fait dans combien de temps.
Mais est-ce que tu as le sentiment que d'autres gens, alors plus jeunes et même nettement plus jeunes, ont gardé cette idée, le font à leur façon, que la télévision peut ou pourrait ou aurait dû faire ça, ou qu'au contraire, sentiment qu'on a très très souvent chez les cinéastes, c'est une sorte de déréalisation du monde. non ?
Non, non, on n'est pas tout seul. Le mouvement qui s'est fait autour de Langlois avec les gens de la Nouvelle Vague était comme ça. On était avec Godard, avec Truffaut, avec Comolli, avec les gens des Cahiers. C'était ahurissant. On inventait des choses merveilleuses. Quand, par exemple, on inventait que on publiait la nouvelle avant qu'elle soit vraie, c'est quand même fantastique. Ou on publiait que Rossellini avait demandé à ce que ses films quittent la Cinémathèque française pour rentrer en Italie par avion et non pas par train. Alors, on publiait ça et on envoyait le lendemain, c'est publié dans Combat, c'est un échappier qui publiait ces trucs. On le découpait, on l'envoyait à Rossellini à Rome, qui nous envoyait immédiatement un télégramme qui était rédigé comme on l'avait mis. C'est, moi, je trouve ça formidable de créer la nouvelle qui crée l'événement. Alors, c'était quand même. Et je pense qu'il fallait toute l'imagination des gens de cinéma et toute l'imagination.
Mais le mot manipulation qu'on n'a pas utilisé pendant ces deux émissions, mais qui était souvent reproché, c'est quoi la différence là ?
Bon, la différence c'était la manipulation contre des gens qui ne valaient pas la peine qu'on ait la moindre réticence. Enfin, il fallait les traiter par le mépris. On les traitait par le mépris parce que on les obligeait, on a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception. Et pendant tout le temps qu'il a été avenue d'Iéna, le malheureux Barbin passait son temps à aller à la poste, revenir, ou des gens à faire ce truc. Donc, c'était effectivement de la manipulation. Mais une belle manip.
Mais non, mais là oui, en t'écoutant en parler, je vois en quoi tu n'es pas, disons, un cinéaste moral au sens où Godard peut l'être. Parce que si Godard rentre dans un rapport avec quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui est n'importe qui, y compris quelqu'un pour qui il n'aurait pas respect, amitié ou alliance cathartique. C'est son côté protestant, c'est le côté on fait avec le n'importe qui est l'autre, y compris l'ennemi, y compris... toi, c'est quand même beaucoup plus aristocratique, quand même, non ?
C'est pas aristocratique, c'est
les
choix.
Il y a quand même des gens
à qui on doit
tout et d'autres à qui on doit rien.
Oui, c'est les choix, bien sûr, c'est évident, ça, mais ce sont des choix, c'est les choix de copains. Quand tu étais petit à l'école, bah, tu sortais avec Pierre et pas avec André.
Ah si, avec André aussi.
Avec André aussi, oui, mais ça c'est ton côté... c'est ton côté moral. Non, il y a quand même des choix, comme en amour, quand même. Tu n'épouses pas Odile, hein ? C'est pour Jeannette. Ben oui, c'est quand même des choses. La vie est faite de ça. C'est ce que j'appelle, moi, les coups de cœur. Et les coups de cœur, c'est essentiel. Enfin, c'est des trucs... C'est très dur de mener sa vie comme ça. Enfin, c'est très dur, faut pas non plus exagérer, parce que, ayant fait de l'ethnographie, j'ai eu très vite ma thèse. Ayant une thèse, on peut tout faire, et j'étais payé par le CNRS. Donc, je n'avais pas de problème... Et tant au CNRS, assez vite, j'ai eu des grades élevés, donc j'étais mis à la retraite avec une solde qui était pratiquement celle que je gagnais quand j'étais en activité, alors pourquoi ne pas continuer ? Donc il n'y a pas de grande règle. Quand quelquefois, des gens me disent « mais c'est immoral, tu prends la place d'autres », je ne vois pas très bien comment, chacun a sa place, c'est pas parce que... j'ai fait un film Liberté, Égalité, Fraternité que Moatti et Van der Keuken n'ont pas pu faire le leur. Au contraire, je suis très, très, très content des aventures partagées, tu vois. Et de voir, par exemple, j'étais ravi de Paris Vupart, pour un exemple.
Ah oui, on n'a pas parlé de Paris Vupart.
Paris Vupart, j'y étais ravi.
Il y a quand même ce sketch sur la gare du Nord qui, à mon avis, est tout à fait le plus beau.
Oui.
C'est un très grand moment de cinéma. Oui.
Bah oui, bah, ça, c'était des trucs parce qu'il y avait les autres. Tu vois, je ne l'aurais jamais fait tout seul. C'est l'instigation de Barbier. Et là encore, tu vois, c'est étrange. Ça venait encore des histoires de la mort. Quand j'étais jeune, mon père, quelquefois, m'amenait sur ce pont au-dessus des rails de la gare de Leeds et me disait, c'est de là que, pendant la guerre de 14-18, partaient les gens pour la mort. Donc, ça a été l'inspiration du film. Mais le fait de faire ce film avec tous les autres copains, moi, j'ai trouvé ça formidable. C'était vraiment... ce qui manque aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est qu'il n'existe plus des ateliers comme ce qu'était la Nouvelle Vague au début. C'est-à-dire que les gens voyaient les films les uns des autres. On disait ce qu'on pensait. Quand j'ai fait petit à petit, Rivette, Romère et je ne sais plus qui, on a passé 10 heures à voir les rushs. On était allongés par terre, on dormait de temps en temps, on se réveillait, puis on discutait, les gens me parlaient, enfin, on savait où on allait. Maintenant, tu vois, c'est fini, ça. Et je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, non, c'est vraiment chacun pour soi.
Oui.
Qu'en même temps, chez les plus jeunes, il y a eu un petit groupe de très jeunes cinéastes qui font du court-métrage récemment. Il y a formulé d'une façon toujours véhémente et sentimentale cette idée que ce serait bien, mais on n'est pas sûr qu'ils vont le faire. Enfin, on pense qu'ils vont être moins portés par une conjoncture qui permet ça.
Oui, là, tu as raison. Par exemple, moi, je suis en contact forcément avec la bande à lumière qui a perdu son président avec Yoris. Et ils sont prêts à continuer, ils sont prêts à faire quelque chose. Et à faire quelque chose, justement, avec ce système qui est le mien, c'est-à-dire la plupart du temps de faire un film sans qu'il y ait le dixième de l'argent nécessaire pour le finir. D'avoir du matériel que l'on partage ou qui vous appartient, qui permet de tourner, et trouver quelques biais qui permettent d'avoir de la pellicule pour commencer à faire un film. Mmh. Et moi, un film, je le commence au viseur. Dans le viseur, on démarre, et puis ça y est.
Mmh. Quand on voit ta filmographie, on est époustouflé du nombre de titres. Il y a beaucoup de petits films ethnographiques, etc. Mais beaucoup, et parmi des plutôt importants. Enfin, je me souviens d'un film que j'avais vu à Venise qui s'appelait Embarradamba.
Oui, Embarradama.
Dama, qui n'est jamais sorti, comme on dit. Et je trouvais ça vraiment dommage. Est-ce que toi, ça t'a pas embêté à un moment que les films n'aient plus d'existence commerciale ?
Ben, c'est difficile, si tu veux, de faire entrer le public des salles dans des systèmes de pensée qui sont compliqués. Et ce film était un film d'accès un peu compliqué. Mais je crois que avec le temps, ça vient. C'est-à-dire, c'est un film qui reste. C'est un film qui, pourquoi il était basé sur un truc très simple. Je crois que c'est Yann Lardo qui avait dit sur ce film dans les cahiers un truc qui était juste, qui était le. À partir du moment où j'avais pu filmer Embarradolo vivant et que je montrais ses funérailles, il devenait éternel. Tu vois, c'est toujours cette idée-là.
Toujours pareil.
Toujours la même. Ouais. Et qu'à ce moment-là, ce film devient très important. Et c'est un film qui a joué dans ma vie et dans notre vie un rôle tout à fait essentiel, parce que en même temps que je faisais un film sur une célébration d'un rituel chez les Dogon qui a lieu tous les 60 ans et où on commémore la mort du premier homme. Or, ce rituel dure pendant 7 ans, va de village en village, et j'ai eu la chance avec Germaine Dieterlin de le filmer. Et on a montré ce film aux gens qu'on avait filmé, et on a commencé à poser des questions, et les Dogon nous ont dit « Ah ça, on ne sait pas, on demandera au suivant, c'est-à-dire en 2020 ». Or, eux savaient très bien qu'ils ne seraient pas vivants, ils savaient très bien que nous ne serions pas vivants. Donc, ça voulait dire qu'on entrait dans un système très singulier qui est des choses qui dépassent une génération. Et c'est un peu ce que moi j'apprends et qui me donne un très grand espoir. C'est un peu dans le domaine de la recherche scientifique, par exemple, dans l'étude des particules. Moi, je dis, à titre de blague, que les physiciens de pointe, les physiciens pointus, se marient entre eux pour fabriquer les petits physiciens qui termineront les expériences qui demandent 10 ans. Et donc, on n'en a que 2 ou 3 dans une vie. Donc, ce seront les enfants qui continueront. Bien là, ça veut dire que les Dogon nous ouvraient la route pour un truc qui semble fou dans le domaine de la recherche et du cinéma, et qui est en train de se préparer doucement. C'est-à-dire que nous passons avec le Mali un contrat de 240 ans pour étudier au moins 4 sigils, 4 fois 60, tu vois. Et à ce moment-là, on donnera nos conclusions dans 240 ans. Alors, c'est extraordinaire de vivre avec ça, parce qu'on forme des gens, on travaille avec des Dogons qui eux-mêmes travaillent avec des gens. Peut-être que ça va s'arrêter dans 60 ans, mais cette idée-là lance un espèce de trucs comme si on était au tout début de notre existence professionnelle. On redémarre pour un tour, tu vois, et ce tour, on sait qu'il lui faudra plusieurs fois 60 ans.
Il nous reste 2 minutes, on prend date avec la fin de l'émission.
Dans 260 ans.
Non, là, c'est 2 minutes, mais j'aimerais que tu les utilises, donc ni plus ni moins, pour parler de ce projet fou dont on m'a un peu parlé en Hollande, du moulin. Donc ce moulin ?
Ben, les moulins avant, c'est né de la manière suivante. Il y a la sécheresse au Niger et l'assistance technique n'arrive pas à résoudre un problème qui est le fait qu'il n'y a pas d'eau, les crues du fleuve baissent, il n'y a pas assez d'eau, et qu'à ce moment-là, ce qu'il est nécessaire, c'est de faire effectivement des cultures désaisonnées. Et pour cela, on s'aperçoit que toutes les pompes, que tous les puits que l'on fabrique, que l'on donne, coûtent très cher à l'entretien. Alors nous partons de l'hypothèse utopique suivante, c'est que l'eau à boire est gratuite comme l'air que l'on respire. Donc essayer de trouver quelque chose, c'est la réconciliation entre le vent et l'eau, et d'amener des moulins à vent hollandais sur les bords du Niger et que les gens apprennent à les construire. Et nous allons faire ça. On n'amènera pas les moulins à vent hollandais, vous savez pas ce que c'était, c'est d'immenses navires, d'immenses caravelles de bois avec du bois venant de l'Oregon. Enfin, c'était la marine hollandaise de la grande époque à terre, ancrée à terre pour utiliser le vent qui propulsait ces mêmes navires. Donc on va ramener quelque chose avec des super bricoleurs et on va faire, sans doute, on va ramener des moulins du type Knossos, comme la région de Mycène, avec des petites voiles que les gens peuvent faire en bois. Mais ces moulins seront suivis par des computers en Hollande pour savoir si ça marche bien et savoir, enfin, cette alliance entre la technique de pointe et le vent et l'énergie éolienne me paraît un beau rêve et nous le commençons en octobre prochain.
Voilà, ben j'espère que nous n'avons pas été des moulins à parole. On est très content d'avoir parlé si longtemps avec Jean Rouch et de l'avoir écouté. L'émission est terminée. Merci Jean.
Merci Serge.
Microfilm par Serge Danet, réalisation Pierrette Perronneau. Cette série de deux émissions a été diffusée pour la première fois sur France Culture les 22 et 29 avril 1990.